Je me souviens d'avoir été sauvé, il n'y a pas si longtemps, sauvé de ces catastrophes, vous savez, que nous servent l'actualité tous les jours et qui peuvent un rien déprimer. Sauvé par un drôle de héros qui n'est autre qu'un livre de papier. Conseillé indirectement, il se trouve par mon invité. C'était un livre qu'il citait en réalité, un livre qui s'appelait « La force majeure » du philosophe Clément Rosset qui nous a récemment quittés. Un livre où la force majeure, c'était la joie. En l'absence de toute raison crédible de vivre, il n'y a que la joie qui tienne, précisément parce que celle-ci se passe de toute raison, écrivait-il. Et ces phrases à Clément Rosset me mettent en joie, non pour me faire oublier, mais pour m'éveiller au contraire à quelque chose qui s'approche de la vérité. Quand il dit « la langue courante en dit beaucoup plus long qu'on ne pense lorsqu'elle parle de joie folle » ou déclare de quelqu'un qu'il est fou de joie. Tout homme joyeux est nécessairement et à sa manière un déraisonnant. Mais il s'agit là d'une folie qui permet d'éviter toutes les autres, de préserver de l'existence névrotique et du mensonge permanent. À ce titre, elle constitue la grande et unique règle du savoir-vivre.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a du savoir-vivre. Dans un très beau roman paru il y a 3 ans, comme inspiré par Clément Rosset, il affirmait et démontrait l'importance, la nécessité de la joie. C'était le titre de ce livre, mais c'est de confiance en soi qu'il nous parle ce matin. Dans un livre qui vient de paraître chez Alary Éditions, un livre qui risque fort de se substituer à tous vos manuels de développement personnel. Sauf que c'est un livre de philosophie, c'est-à-dire de sagesse et de joie. Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, c'est que je n'exige de vous qu'une seule chose ce matin, c'est d'être fou de joie.
Ouais, c'est tellement beau le texte que vous avez lu. En fait, c'est un texte qui m'a vraiment... Je pense que c'est un texte qui a tout simplement changé ma vie, et en plus de changer les livres que j'ai écrits après. Et cette idée que la joie est folle ou n'est pas la joie, que la joie est contrariée ou n'est pas la joie, que la joie est paradoxale ou n'est pas la joie, une fois qu'on l'a comprise, elle change l'existence. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de se réjouir quand on voit l'état du monde, quand on voit la violence du réel, quand on voit l'injustice, quand on voit les blessures d'ego qu'on rencontre. Et on est capable de joie quand même, de joie malgré tout. Et ça, c'est... On en a plus besoin aujourd'hui qu'avant parce que le monde est plus dur, on est plus conscient de sa dureté et on a cette joie tout contre l'adversité qui est possible.
Qu'est-ce qu'il incarnait pour vous, Clément Rosset, dans le monde des idées? Quel modèle est-ce qu'il était pour vous précisément?
Alors, pour moi, il était, enfin, il est toujours, hein, un des philosophes les plus importants du temps. Pour sa pensée de la joie tragique, certes, mais aussi pour sa très belle méditation sur le réel. C'est quelqu'un qui nous a dit que le réel est là, évidemment, mais qu'on ne sait pas ce qu'il est. Il a refait le coup de Descartes, vous savez, avec le morceau de cire. Descartes met à douter de tout, est-ce que ce morceau de cire existe? Et Clément Rosset fait pareil avec un camembert. Et il dit, le camembert, c'est sûr qu'il existe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je peux pas dire ce que c'est. Et ça, c'est son livre qui s'appelait L'objet singulier, qui est un très beau livre. Il nous montre qu'on fait une expérience du réel évident. D'ailleurs, dans la joie, on est en contact avec le réel même imparfait. Mais simplement, cette expérience, c'est évident que le réel existe, mais on ne sait pas le définir, on ne sait pas le nommer, et bien sûr, on ne sait pas le comprendre.
Quelle image est-ce qu'il donnait de la philosophie ?
Et il faut quand même dire aussi qu'il est extrêmement drôle.
C'est ça.
Il est drôle. Alors, il buvait aussi beaucoup, il faut le reconnaître.
Et, il
avait une philosophie de l'ivresse, mais pas évidemment l'ivresse se réduisant pas à celle que procure l'alcool. Il donnait une image du philosophe traversé par sa pensée, traversé par sa joie de penser. Et pour moi, c'est un grand modèle dans le sillage d'un Nietzsche, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas réduire la contradiction en la simplifiant dans un système, qui ne veut pas dépasser le contradiction, qui ne veut pas dépasser le paradoxal, mais faire corps avec lui et lui dire oui. Et c'est ça, le réel. Le réel, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut réduire. Et la joie, c'est précisément d'être en contact avec ce réel-là sans vouloir le caricaturer. Et souvent, les philosophes, malheureusement, les autres, eh bien, ils réduisent le mystère du réel en voulant précisément le saisir.
Dans quelle mesure est-ce qu'il vous a donné confiance en vous ? En tant que philosophe, mais aussi dans la vie, Charles
Pépin. Alors, c'est une très belle question, parce que au fond, j'avais en moi ce rapport à la joie, et dans les difficultés que j'avais rencontrées dans mon existence, j'avais mesuré que j'avais cette ressource, une sorte de combativité joyeuse, on va dire. Et finalement, j'ai trouvé dans la force majeure de Clément Rosset le substrat théorique de mon rapport à l'existence. Et finalement, c'était presque miraculeux. Je précise pour nos auditeurs que la force majeure, le livre que vous avez lu très bien d'ailleurs,
Un extrait, hein.
il fait, il fait 23 pages.
Oui.
Mais c'est 23 pages d'une densité inouïe. Chaque ligne est un bijou. Et donc, il faut vraiment les lire. Quoi.
On l'entend surtout, vous l'admirez, ce philosophe. Et vous expliquez dans votre livre La confiance en soi, une philosophie, Charles Pépin, que c'est un facteur de confiance en soi.
Oui, tout
ça,
à fait.
L'admiration.
Bien sûr, mais à la condition de bien distinguer l'admiration de la vénération vaine ou stérile.
Ah.
Je parle pas de fans qui sont en admiration devant leur idole. Je parle d'une admiration au sens nietzschéen d'ailleurs, où quand on admire quelqu'un, on admire la manière dont il est devenu lui-même.
Oui.
On admire toujours une singularité. C'est d'ailleurs la différence avec le respect. Tout le monde est digne de respect, mais seules les singularités sont dignes d'admiration. Et je pense que effectivement, pour prendre confiance en soi, c'est un chapitre de mon livre, en confiance en sa singularité, c'est très dur, parce que la société est normée, parce qu'il faut rentrer dans le rang, parce que les processus nous dévorent. Et donc, on a besoin, tout simplement, de voir que quelqu'un a réussi à devenir lui-même, et de l'admirer. Autrement dit, admirer la singularité de l'autre, c'est prendre la mesure de sa possible singularité. Admirer l'autre, c'est se nourrir.
Mais là, vous ne parlez pas évidemment de la télé-réalité ou des
pas
réseaux
vraiment.
Sociaux, qui n'est pas de la véritable admiration pour vous.
Si vous voulez, le problème, c'est qu'on vit une époque assez inédite dans l'humanité, qui a été ouverte par la télé-réalité dans les années 90, et qui se prolonge aujourd'hui avec les phénomènes de buzz, où finalement on nous donne à admirer, entre guillemets, des figures qui sont médiocres,
à
moyennes.
Liker.
Et ça, c'est très dangereux pour nous, parce qu'on a besoin d'admirer, et pas simplement d'être fasciné par un phénomène de buzz. Et vous savez, ce qui compte, c'est ce que Nietzsche voulait dire quand il disait « deviens ce que tu es ». C'est une invitation à la confiance en soi.
Oui.
« Deviens ce que tu es ». Mais pour que je puisse oser devenir ce que je suis, encore faut-il que j'ai eu simplement le spectacle face à moi de quelqu'un qui est devenu ce qu'il est. Aristote, d'ailleurs, disait déjà ça. Et là aussi, c'était étrangement, même si c'était pas dit comme ça, une invitation à la confiance en soi. Aristote disait, vous savez, le grand homme, c'est pas quelqu'un qui est plus grand que les autres. C'est juste quelqu'un qui est allé au bout de son humanité à lui, qui a actualisé le possible de son humanité. Et je pense que prendre confiance en soi, c'est tout simplement prendre confiance dans le fait qu'il est possible, dans mon existence, d'aller au bout de mon humanité à moi.
C'est plus difficile aujourd'hui.
Je pense que effectivement, avec notamment le poison de la comparaison que distille à foison notamment les réseaux sociaux, c'est très dur, oui. Parce que vous savez, avant, nos grands-pères, nos grands-mères n'avaient pas cette possibilité, assis au fond de leur fauteuil, de faire défiler comme ça les images tyranniques du bonheur des autres, de la réussite des autres. Et il y a une antidote à ça, qui est de savoir à quoi on aspire vraiment. Ce que j'appelle dans mon livre « La sagesse d'Ulysse ». Si vous savez quel est votre désir, vous n'allez pas être blessé par la comparaison et par toutes ces images qui défilent. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous n'êtes pas interrogé sur vous-même, si vous n'avez pas fait de psychanalyse, s'il n'y a pas eu cette introspection, si vous ne savez pas quel est votre désir, quel est votre axe, alors tout va vous attaquer, tout va vous agresser. Et vous voyez Ulysse, et alors certes il met longtemps à revenir, mais il sait quel est son désir, c'est de retrouver sa femme, son fils et sa cité. Et c'est pourquoi il ne se perd pas, c'est pourquoi il ne souffre pas de ce poison de la comparaison.
Quel est-il le vôtre de désir, Charles Pépin ?
C'est pas facile de l'identifier. En grandissant, on sait plutôt de quoi on n'a pas envie, donc on se rapproche de ça. Mais après quelques années d'analyse, je me pose encore la question... Je pense quand même pouvoir répondre en termes d'un certain type d'existence, un certain type d'intensité d'existence aussi, d'ailleurs enseigné par Nietzsche ou par Clément Rosset, mais c'est une question dure.
Ah ouais, moi je pensais que vous alliez me répondre autre chose.
Par exemple,
que vous alliez me répondre la culture, évidemment, qui nous enthousiasme au plus haut point dans cette émission, malgré son actualité souvent rabat-joie, ironique et morbide. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 5 avril ? Tout le monde le sait, du moins tout le monde le chuchote. Everybody Knows d'Asghar Farhadi ouvrirait le 71e Festival de Cannes le 8 mai prochain. C'est ce qu'affirme la très sérieuse revue Variety. Le film qui réunit Penelope Cruz et Javier Bardem est une odyssée familiale entre l'Argentine et l'Espagne qui vire au thriller. Ce serait la troisième fois que le cinéaste iranien montrait les marches du festival où il a déjà gagné deux prix, dont celui du meilleur scénario avec Le Client en 2016. Info ou un tox, réponse dans une semaine.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip, des clip, crack,
des
bang,
des
bump,
et des
zip, shabam, pow, blop, whiz.
sa bulle à Bastia, car c'est aujourd'hui qui commence la 25e édition des Rencontres de la Bande Dessinée. En marge d'Angoulême ou de Saint-Malo, ce rendez-vous annuel corse est devenu l'un des incontournables du genre. La preuve avec une programmation aux petits oignons. On attend près de 40 auteurs, dont les stars Louis Trondheim, Mathieu Sapin ou Bastien Vivès, et pas moins de 15 expos, dont celle très chic, autour des figures des années folles en dessin. Ça s'annonce bien, bien, bien. Les Molières, Zabou portant. La cérémonie anniversaire des 30 ans de Molière qui aura lieu le 28 mai prochain se dévoile et c'est Zabou Breitman qui en sera la maîtresse de cérémonie. Côté nomination, trois favoris sortent déjà du lot. Le fils de Florian Zeller obtient pas moins de 6 citations. Les Fourberies de Scapin, mise en scène par Denis Podalydès, 5. Tandis qu'Une chambre en Inde d'Ariane Nouchkine a été retenue dans 3 catégories. Allez Ariane, là!
Si vous êtes un bon danseur classique, vous pouvez vous plier à toutes les disciplines.
La danseuse et chorégraphe Françoise Adret s'est éteinte lundi, elle avait 97 ans. Discipline de fer, gouaille inégalable et cigarette au bec, elle restera comme l'inoubliable directrice du ballet de l'Opéra de Lyon entre 1985 et 1992, ouvrant son répertoire à l'international et invitant notamment Jiří Kilian et William Forsythe. Elle fut l'une des premières femmes à devenir directrice d'une compagnie de danse. Adieu, Dame Adret. Et le philosophe Charles Pépin, invité de Boomerang ce matin pour la confiance en soi. Je dis philosophe, mais c'est philosophe pour tout le monde. C'est ce qui est formidable avec vous. Et dit comme ça, on pourrait croire que votre livre est un énième manuel de développement personnel. D'ailleurs, il n'en est rien, Charles. C'est même l'inverse.
Enfin, c'est bon. D'abord, il faut quand même préciser que c'est pas mal de vouloir que les personnes se développent. Hein. Mais c'est vrai que moi, c'est un livre de philosophie. Vous savez, je me suis rendu compte que le geste inaugural de la philosophie est au fond une invitation à la confiance en soi. Quand vous avez Socrate, qui a ses jeunes disciples, qui lui posent plein de questions, ils veulent la réponse. Ils veulent que Socrate soit le sachant qui délivre son savoir. Et Socrate leur dit, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous fais confiance. Ça veut dire, le savoir est en vous. Lorsque vous avez les philosophes des Lumières, Kant en Allemagne ou Diderot en France, qui disent, n'écoute pas les anciens, n'écoute pas les traditions, n'écoute pas les experts, fais confiance à ta raison. Ose écouter ton entendement. Fais confiance à ton sens critique. Au fond, c'est une invitation à la confiance en soi. Et bien, figurez-vous qu'avant d'écrire ce livre, et alors que j'enseigne depuis 20 ans, je l'avais pas compris. En faît, j'avais pas compris que ce qui me plaît tant dans la philosophie, et donc pas dans la psychologie la complète, c'est précisément cette invitation à faire confiance non seulement à sa raison, mais aussi à son corps, à son intuition, à sa présence au monde. Quand vous avez par exemple Bergson qui vous dit « Écoutez-vous, soyez présent au monde et laissez cette vérité se faire jour en vous », la philosophie par exemple de l'intuition de Bergson est une philosophie de la confiance en soi.
Mais c'est quand même très intéressant parce que effectivement, ce thème de la confiance en soi, pour autant, il n'a jamais véritablement suscité l'intérêt des philosophes, à l'exception de quelques-uns.
Oui.
En quoi c'est un sujet proprement philosophique pour vous à étudier?
Alors, il y a quand même un livre de Emerson, hein,
certes.
Qui, voilà. Et pour moi, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un sujet proprement philosophique au sens où les thèmes classiques de la philosophie, comme par exemple la liberté individuelle, la singularité, la créativité, au fond, sont des manières indirectes de parler de confiance en soi.
Oui.
Et ce que j'ai fait dans mon livre, c'est de mettre à jour de manière explicite cet implicite de l'histoire de la philosophie, notamment occidentale, qui est une invitation à la confiance en soi. Donc c'est vraiment un thème philosophique au fond classique, et c'est étrange qu'il n'ait pas cette place.
Oui.
Et
Emerson, alors, vous n'êtes pas d'accord avec lui.
C'est l'exception. Alors, je suis d'abord d'accord avec l'idée d'écrire un livre sur la confiance en soi.
Oui.
Et je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il dit, notamment toute la dimension un peu mystique. Lorsqu'Emerson nous explique que la beauté de la nature nous donne confiance en nous, que l'acceptation d'un mystère nous donne confiance en nous, Emerson nous permet vraiment de lutter contre les théoriciens les moins inspirés du développement personnel qui emploient beaucoup de métaphores informatiques. C'est atroce. Vous allez taper sur Internet la confiance en soi, vous allez voir, vous pouvez vous reprogrammer en 7 leçons. Vous pouvez trouver le mode d'emploi de la machine qui est en vous. Vous pouvez réinitialiser le logiciel de la confiance en soi. C'est atroce et c'est surtout violent et c'est surtout méchant parce que ça ne marche pas. Alors, grâce à Emerson, donc je le rejoins sur la dimension beaucoup plus tendre de la confiance en soi, où il s'agit d'accueillir quelque chose de la beauté du monde et de s'en remplir.
Mais
en revanche, le mais arrive, en effet, ce que je n'aime pas chez lui, c'est lorsqu'il dit que chacun a en soi, et là, ça ressemble un peu à un certain développement personnel d'aujourd'hui, une sorte de bijou, qui est le moi, une sorte de joyau qu'il n'y aurait qu'à faire sortir. Comme si, finalement, la confiance en soi, au fond, devait n'être qu'une confiance en soi. Et cela, je le critique. Je pense que la confiance, on la conquiert en sortant de soi. On n'a pas un bijou à l'intérieur. Le bijou, il est dans la relation qu'on va tisser avec les autres. Il est dans la rencontre avec le monde. Il est dans ce que Sartre appelle la transcendance de l'ego.
Mais comment...
Moi, juste finir, parce que c'est important qu'on comprenne ce qui se passe quand je sors de moi. Non seulement je rencontre les autres, mais je me rends compte des ressources insoupçonnées. Je rencontre aussi le monde. Et le monde est parfois bien plus tendre avec nous qu'on ne le croit. Parfois, on a des bonnes surprises. Parfois, on comprend des choses en agissant. Pensez, par exemple, à ce comédien qui a le trac. Il ne va pas dissiper son trac avant de monter sur scène. C'est bien la preuve qu'Emerson a tort. S'il devait chercher en lui le bijou, alors il serait rassuré de trouver le bijou du moi et après il irait sur scène libéré du trac. Ça ne se passe pas comme ça. C'est dans la relation, c'est dans la grâce relationnelle que nous pouvons conquérir la confiance qui manque.
Il arrive, Charles
Pépin, et ça, Emerson ne le dit pas.
Que l'extérieur, que les autres fassent peur.
Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est là que ma thèse, je dois bien le reconnaître, est un peu problématique par rapport à ce que disent certains psychologues qui expliquent qu'en effet, l'anxiété extrême, la crise de confiance radicale, vient souvent de la violence du regard des autres, de la méchanceté des autres et de cette difficulté qu'il y a à se retrouver dans le regard que les autres portent sur soi. Alors là, il y a deux écoles et dans mon livre, j'aborde les deux écoles, je ne sais pas tellement laquelle l'emporte. Il y a une première école qui a quand même, mon cœur va de ce côté, qui vise à dire, il ne faut pas se concentrer uniquement sur ta maîtrise, ton savoir-faire et ta compétence, mais aller chercher dans les bonnes relations, cultiver les bons liens, pas avec ceux qui vont t'humilier, mais avec ceux qui vont te mettre en confiance, te faire confiance. Et puis il y a une autre école qui dit non, quand on est en crise de confiance, quand l'anxiété est trop forte, il faut briser le rapport au monde et à l'extériorité et réapprendre à se faire confiance à travers une maîtrise et un savoir-faire. Évidemment, les deux s'articulent. Ce que j'appelle dans mon livre la confiance technique s'articule à la confiance relationnelle. Une question que vous posez indirectement, c'est par quoi faut-il commencer? Et là, bien sûr, la question, je la laisse au thérapeute. Je peux pas trancher.
Vous parlez quand même, et ça c'est assez formidable, de la capacité qu'on a à s'écouter. Qu'est-ce que ça voudrait dire, s'écouter, Charles Pépin ? Parce que quelquefois ça peut être une insulte, vous savez, ça peut être dérogatif. Ouais. On dit, ah, celui-là il s'écoute.
Non mais alors c'est pas en ce sens-là.
Bah,
c'est au sens où quand nous avons acquis une certaine compétence, nous avons répété des choses, et cette répétition nous autorise à sortir de la répétition et à devenir intuitif. C'est ce qu'on appelle l'incorporation progressive d'une compétence qui donne une forme de présence à soi, qui s'appelle l'intuition, et dont Bergson a fait d'ailleurs des livres entiers. Alors, ça veut dire ça, s'écouter. Ça veut dire, c'est pas écouter une simple partie de soi, ce n'est pas par exemple que l'intuition sensible, ou ni l'intuition simplement intellectuelle, c'est s'écouter tout entier, et vous savez, c'est très très rare, les instants où on est tout entier présent à soi-même. Le meilleur exemple de cette présence à soi, qui pour moi est la définition de s'écouter, c'est quand vous avez une expérience esthétique. Vous écoutez Bowie, ou vous regardez un très beau paysage, et là, vous savez que c'est beau. Ça veut dire que vous vous faites confiance. Vous vous écoutez. En écoutant la musique, vous vous écoutez tout autant.
Bon, on s'écoute alors. On s'écoute parce qu'on est comme ça, dans cette émission, Charles, plus souvent qu'à notre tour d'ailleurs. Vous nous connaissez, on aime s'écouter, dans tous les sens du terme, nous. Écoutez David Bowie que vous citiez, je l'ai noté, et que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre Changes 1972. Vous êtes sur France Inter avec Charles Pépin, Boomerang. On vous veut du bien.
Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it.
Turn and face the strain.
Change it.
Wanna be a richer man?
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time.
Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave.
stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to blow up on out of it.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'il a une crinière assez surprenante. Hein. Quelque part entre André Rieu, Yvan Noé et Pépin le Bref, ne serait-ce que par son nom. L'œil vif, intelligent, généreux, la figure débonnaire, amusée, pleine de sagesse. On l'imagine pieds nus, en toge, le teint légèrement hâlé, déambulant dans les rues d'Athènes, interpellant passants et marchands pour s'approcher un peu plus hein, de la connaissance du monde et des hommes, des vrais. Chemise ouverte en jean ce matin, où va la France ? Charles Pépin, invité de Boomerang. Pour la confiance en soi, un livre où vous prenez un exemple, différents artistes ou sportifs, Charles, de Madonna à George Sand, en passant par John Lennon ou Serena Williams, des parcours d'excellence. En somme, comment trouver en soi suffisamment de confiance pour devenir excellent, pour autant qu'il le faille d'ailleurs, tiens, devenir excellent.
Oui, j'aime pas trop le mot, à vrai dire. Je pense qu'il vaut mieux chercher à s'améliorer toujours que chercher à être parfait. D'ailleurs, les exemples que vous avez pris sont intéressants. On voit bien que dans le cas de Madonna, par exemple, elle a réussi, elle a été libérée par la confiance qu'on a mise en elle. Je vous fais un peu l'histoire. Elle était inhibée, elle avait perdu sa mère, elle trouvait pas la place dans cette famille que son père avait reconstruite en faisant d'autres enfants. Elle était pourtant bonne techniquement, vous voyez, en piano et en danse, mais elle n'avait pas confiance en elle, elle n'avait pas beaucoup d'estime d'elle-même. Et c'est son professeur de danse qui l'a libérée. À 11 ans, il a fait deux choses importantes qui, à mon avis, participent du secret de la confiance. D'abord, il l'a mise en confiance. Compliment, amour, sécurité. Et après, il lui a fait confiance. Il lui a dit, tu vois, ce ballet de fin d'année, il est toujours raté, c'est classique, c'est conventionnel. Je te fais confiance, tu me fais un feu d'artifice. Et ce jour-là, elle est devenue Madonna. Donc je pense qu'il ne faut pas viser l'excellence, mais il faut peut-être chercher à cultiver les liens qui à la fois rassure et libère.
Et il faut quand même, vous le dites bien, une maîtrise parfaite du domaine dans lequel on exerce. Comment concilier cette maîtrise et une forme d'abandon, compétence et confiance ?
C'est vraiment toute la question de mon travail. C'est comment la métamorphose peut avoir lieu entre la maîtrise et l'abandon. En sachant qu'on se trompe, on s'illusionne si on pense que la confiance en soi se réduit à l'affaire d'une maîtrise excellente, comme vous dites. Alors, une des manières de répondre est de dire que quand je m'entraîne, quand je répète, quand je me rassure dans la compétence, il faut que je le fasse avec une âme de créateur et pas avec l'instinct de la peur dans le ventre. Si je développe ma maîtrise pour simplement être rassuré et préparé à tous les imprévus et que la vie soit devenue entièrement prévisible, au fond, j'aurai jamais confiance en moi. En revanche, si au moment de la répétition, je suis un créateur, même quand je ne crée pas, alors je serai prêt à affronter la vie. Et vous savez, la vie, elle sait très bien nous prendre par surprise. Donc si on veut se rassurer et si on réduit la confiance à l'idée que la vie sera devenue prévisible tellement je suis compétent, alors on va droit dans le mur.
Là, vous
c'est pourquoi je pense qu'avoir confiance en soi, ça n'est surtout pas être sûr de soi.
Et là, vous employez le jeu du philosophe, je vous entends. C'est-à-dire que vous parlez pour tout le monde. Mais en vrai, Charles Pépin, c'est intéressant parce que si ça se trouve, vous parlez aussi un petit peu pour vous. Je rappelle que vous êtes enseignant, issu du système universitaire français traditionnel, un système dont vous dites qu'il ne favorise pas vraiment le développement de la confiance en soi. Celui-là même qui va de pair à vous entendre avec une certaine forme de créativité.
Bah, disons que c'est un système qui a du bon et du mauvais. Il y a beaucoup d'enseignants géniaux. Moi, j'enseigne depuis 20 ans et j'ai rencontré, et puis j'ai trois enfants, j'ai rencontré beaucoup de professeurs qui sont merveilleux. Mais je pense que ce qu'on doit tous se dire, nous les enseignants, les professeurs, c'est que notre métier est au moins autant d'enseigner notre matière que de donner confiance à la jeunesse. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est ce que je préfère faire depuis 20 ans en classe de terminale. C'est tellement beau quand on voit soudain que l'élève prend confiance en lui, en l'instant, en la vie, en l'avenir. Mais souvent, vous savez, il le fait parce qu'on n'étale pas son savoir. Il le fait parce que nous-mêmes, les enseignants, on ose ne pas s'accrocher à notre maîtrise. Très concrètement, ça veut dire que parfois, un élève me pose une question et je lui dis « j'en sais rien, t'en penses quoi ?» Et là, la confiance commence.
Du coup, ça passerait par quoi, pour vous, une réforme de l'éducation ?
Ah, vous êtes dur, le matin.
Non.
Bah, écoutez, ce que je viens de dire est intéressant.
Oui.
Je pense aussi plus de transversalité. Comme ça, c'est très intéressant que des professeurs de philo, d'économie, d'histoire se croisent, se rencontrent, parlent ensemble, que chacun se libère d'une stricte logique de maîtrise pour entrer dans une logique davantage de confiance et aussi d'abandon. Et puis je pense qu'il faudrait aussi beaucoup valoriser la singularité, c'est-à-dire non pas toujours la consigne, la norme, le bic rouge sacro-saint, mais ta singularité. C'est-à-dire en gros, est-ce que, ok, tu as réussi ce devoir, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce succès par rapport à ton chemin singulier ? Ou alors, bien sûr, ok, tu as raté ce devoir, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce ratage dans le parcours de ta singularité ? Donc passer d'une logique de la norme à une logique de la singularité.
Pour terminer, il y a des voix qui vous rassurent, vous, qui vous donnent confiance
en
vous ?
Oui, alors la voix de Bowie tout à l'heure, celle de Barbara, celle de Brel beaucoup. Ce que j'adore chez ces êtres charismatiques, c'est qu'on sent qu'ils vont chercher la confiance hors d'eux-mêmes. Vous savez, quand vous allez voir Brel en concert, ou Bowie...
Fait longtemps que j'y suis pas allé.
Oui, oui, j'imagine.
Voir Brel en concert.
Ouais, ouais. Ou même, je me souviens, j'étais allé voir Madonna, d'ailleurs je le raconte dans le livre.
Oui.
Et ce qui m'a surpris, c'est qu'on dit elle est arrogante, elle est sûre d'elle, pas du tout. J'ai vu dans ses yeux qu'à chaque instant, elle allait chercher la confiance dans les yeux des autres, dans l'énergie des autres, dans le corps des autres. Et en fait, je m'exprime mal, c'est pas dans les autres, c'est dans le lien qu'elle invente avec les autres. Ce que j'appelle la grâce relationnelle de la confiance en soi.
Vous m'avez donné confiance en moi ce matin, Charles. Et je vous remercie d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre livre « La confiance en soi, une philosophie » est publié chez Alary Éditions, qu'il ne va pas tarder à devenir le livre de chevet de bien des auditeurs. Je rappelle aussi que vous animez un cycle de débats plusieurs fois par mois dans le cadre des lundis philo organisés par les cinémas MK2 jusqu'au 25 juin en l'occurrence, et que vous êtes toujours enseignant au cas où certains voudraient retourner au lycée. Tout de suite, celle qui prend les médias avec beaucoup de philosophie, Sonia De Villers, et son instant M juste après une exclusivité Boomerang, le tout nouveau titre de Françoise Hardy qui s'appelle Un seul geste, dans le cadre d'une journée spéciale qui lui est consacrée sur notre chaîne et notre site internet pour la sortie de son nouvel album demain. Ça fait comme ça.
Ni direction, ni boussole, ni signal, ni repère. Rien qu'un banal jeu de rôle, sans endroit ni envers. Trop de paroles en l'air, et voilà qu'on s'y perd. Où aller, que faut-il faire? Une main tendue, une épaule, une halte nécessaire. Dans cette course vaine et folle aux bonheurs éphémères, trop d'amour délétère, de retour en arrière. Comment voir un peu plus clair? Une porte ouverte, suffirait-il d'un seul geste, nous parler lâcher du lest, essayer de nous connaître.
cœur s'affole et le temps s'accélère. Nulle part les mots qui consolent, qui rassurent ou éclairent. Des couleurs, une lumière, quelques fleurs, un feu vert, un espoir qui pousse à faire. Le seul geste de laisser la porte ouverte pour que le malheur déserte nos cœurs et nos têtes. Suffirait-il d'un seul geste de la douceur qui s'apprête à calmer les plaies secrètes, chasser le mal-être? Un seul geste, c'est peut-être ta porte ouverte à franchir. Qu'on arrête de souffrir.
Personne d'autre, Françoise Hardy sur France Inter, personne d'autre par Sonia De Villers. Les médias,
ça
l'instant
fait,
M.
Ça fait rire mon invité.
Ah bah j'espère bien.
On entend parler de souffrance, tout ouais. Ça, c'est un peu son métier. Bon, bref. J'ai invité un joyeux dingue ce matin, Augustin.
Tant
bon,
mieux.
Allez, salut, à
allô,
demain.
Manny.